Donc, on a une période d'une dizaine de minutes de questions, bien sûr, que ce soit pour Mme Zimmermann ou M. Carpentier. La parole est à vous, M. Therrien.
M. Therrien, de l'Université de Montréal. Dans l'enseignement de l'éthique de la recherche, on a beaucoup de difficultés à concilier certaines lois québécoises avec le PTC, particulièrement, par exemple, le waivers. Je ne suis pas capable de traduire en français, là, mais waivers au consentement pour des recherches à risque minimal. Est-ce que vous pouvez préparer quelque chose ou vous avez réfléchi à ça?
En fait, on a... D'abord, je vais m'informer auprès de... Je regarde Claudine et Mylène pour savoir. Je sais qu'il y a eu des ajustements au point de vue législatif québécois qui ont mieux aligné le PTC2 avec la législation québécoise. Alors, si j'ai bien compris, c'était surtout le consentement pour la recherche avec les mineurs qui était un problème. Et je crois que ce problème est maintenant plus ou moins résolu. Pour les waivers, je devrais le savoir. On a ajusté ce chapitre-là et surtout, c'est l'article 3.7, c'est les alternatifs au consentement livré et éclairé. Mais je ne sais pas si les changements portent spécifiquement ou avaient à l'esprit des difficultés au Québec. Je ne sais pas à quoi justement...
Enfin, je ne suis pas juriste, mais il me semble qu'il n'y a pas de waiver au consentement dans consentement à la recherche au Québec. On pourrait demander...
Non, il n'y en a pas.
Ouais.
Il n'y en a pas.
C'est ça.
Sauf la recherche sur dossier,
ouais.
Effectivement, avec l'autorisation du DSP, c'est tout. Mais il n'y a pas de waiver sur la recherche avec des participants.
Oui.
Alors, vous dites que tout l'article 3.7 ne s'applique pas au Québec. Tout changement de... Ça veut dire que, par exemple, pour la psychologie, la déception partielle ne se fait pas. Ce n'est pas un waiver total. On n'utilise pas le mot waiver en anglais non plus.
Okay.
C'était Justice Canada qui nous a dit que ce n'est pas un waiver.
C'est une exception. Alors, exception au consentement.
C'est une exception, soit totale, soit partielle, et on a des conditions très précises pour le satisfaire, et on demande, oblige un debriefing par après. Okay.
Par rapport juste un deuxième point, mais je vais arrêter là. Par rapport au consentement à des tissus pour lesquels c'est très difficile d'obtenir un consentement, mais l'énoncé de politique est beaucoup plus, entre guillemets, conciliant que la loi québécoise avec l'article 24, je crois.
22.
Ouais. OK. Et donc, l'énoncé de politique est plus ouvert, disons, que la loi québécoise.
Oui, et des fois, ce n'est pas seulement la loi québécoise, c'est des fois le PTC2 est plus ouvert ou plus, disons, flexible, mais c'est une ligne directrice. On dit toujours que si vous êtes dans une juridiction où il y a des lois plus restrictives, disons, c'est la loi que vous devez suivre, c'est sûr. Nous, notre questionnement, c'est sur le point de vue éthique uniquement. Ça ne veut pas dire que le législateur n'a pas, pour ces raisons, fait une protection, disons, plus restreinte ou plus rigoureuse. Okay? Alors, quand il y a conflit, on dit que...
On devrait prendre la norme la plus exigeante.
Oui.
C'est ça. Merci. Oui. Merci.
Sauf si des cas où vous... Mais oui, les conflits entre la loi et l'éthique, c'est un domaine très intéressant. Mais en principe, vous suivez la loi d'abord.
Bonjour, merci pour les conférences. Michel Giroux, du Comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR. Une question d'interprétation, de compréhension, Richard, puis ensuite une question qui s'adresse à vous deux. Tantôt, tu parlais de vidéo par rapport au consentement. Je ne suis pas trop sûr que j'ai compris. Peux-tu reprendre ça?
C'est en Inde.
Ah, c'est en Inde. OK. Oui. Ah, c'est là.
Okay. On est passé par l'Inde. Rapidement.
Okay. OK, correct. C'est très bien. C'est... Parfait, non? Il y a l'Himalaya, plein de choses à visiter là.
Oui.
Maintenant, ma question, vous pouvez avoir un son de cloche intéressant tous les deux parce que c'est canadien. C'est la question des délais. des délais de réponse des CER. Est-ce que c'est partout que c'est des délais de fou très, très longs en général dont on se plaint ou c'est plutôt mythique, ça?
Moi, mon expérience, c'est que c'est très variable.
Très variable. Je dois dire que on n'a pas fait un sondage de façon scientifique, mais je crois que ça marche très bien. Surtout, quand on a lancé le PTC2, on a insisté sur une révision éthique appropriée, proportionnée. Et je crois qu'il y a des CER qui l'ont pris vraiment très à cœur, et quand il s'agit de risques minimes, ils ont des processus qui marchent très bien, qui sont rigoureux, mais qui marchent vraiment de façon très vite, mais de façon appropriée. La question qui a été posée par Pierre ce matin, qui est la bonne question, est-ce que votre activité apporte une plus-value? Des fois, on a des questions sur les processus et tout ça, et je dis, écoutez, si vous le faites deux fois ou trois fois, est-ce que ça donne une plus-value? Est-ce que vous êtes posé cette question-là? Et pour moi, c'est un point que j'aurais voulu faire dans ma présentation. L'importance de la formation, c'est justement pour donner aux individus, que ce soit des chercheurs ou des membres de CER, la confiance d'apporter leur, vous avez utilisé le terme créativité, leur analyse, leur propre pouvoir de prendre des décisions pour dire, écoutez, dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de faire telle ou telle chose. Et je crois qu'avec cette confiance, cette compréhension des lignes directrices, vous êtes mieux à l'aise de dire, écoutez, on n'a pas besoin de prendre 5 mois pour faire cette décision, on a besoin juste de demander un expert qui va nous donner le conseil approprié qui nous manque. So, pour moi, l'efficacité et les délais, c'est quand on pose la question, la deuxième question ou la prochaine question, pourquoi? Des fois, on trouve que vous avez un CER qui se sent un peu insécuritaire de prendre des décisions. Des fois, bien sûr, c'est juste une question de volume, ça je comprends, mais la formation, la confiance, le pouvoir décisionnel, je crois que ça, c'est une barrière qu'on devrait confronter parce que c'est une des raisons pour lesquelles les CER, des fois, sont critiqués pour ne pas porter une plus-value, mais juste prendre du temps. So, une longue réponse à une petite question.
Yves Pesant, médecin-chercheur au CSS de Saint-Jérôme. Ma question s'adresse à M. Carpentier. Vous avez bien établi que Santé Canada est bien au fait de la compétition mondiale et tout ce qui se passe, les glissements vers les pays émergents. Donc, vous vous situez vraiment centralement aussi parce que vous devez donner votre autorisation et comme chercheur, on attend la NOL. Et j'aimerais savoir si vous avez un niveau de compétitivité ou un niveau de savoir un peu où est-ce que vous situez au point de vue des autres pays là, qui donnent leur autorisation au comité d'éthique pour enclencher tout le processus. Donc, mondialement, est-ce que vous regardez ça précisément pour justement donner des réponses rapides?
Moi, je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'à la direction des produits thérapeutiques, eux le font. Je ne sais pas. De temps en temps, ils publient des chiffres, de temps en temps, ils ne publient pas. Je ne sais pas si ça dépend des résultats. Mais je sais qu'eux savent comment ils se comparent aux autres choses. Mais moi, je ne suis pas au courant de ces chiffres-là.
Alors, je vous propose aujourd'hui de publier constamment sur vos quand vous faites vos exercices, de donner vos performances par rapport aux autres pays, parce que ça, c'est l'enclenchement de la recherche c'est très, très, très sensible, parce que tout part de là, et quand on attend la NOL, ce qui est l'autorisation de Santé Canada pour procéder, on est des fois dans une situation où si 50% des sujets de recherche ont été randomisés dans d'autres pays, nous, on commence tardivement, et c'est des millions, des centaines de millions qui ne rentrent pas au Canada.
Tout à fait, tout à fait.
Ma deuxième question, c'est que la FDA, en fait, avant de donner un IND pour un produit qui va être commercialisé, s'assure que les populations qui vont la recevoir aux États-Unis, c'est pertinent. En ce sens que si un protocole de recherche multicentrique est surtout fait en Asie ou ailleurs, ou peu, touche peu la communauté caucasienne, ils vont avoir des réticences. Ils vont demander justement que l'étude multicentrique soit faite sur un territoire où ça va, la médication va être vendue. Donc, c'est une politique qui fait qu'en même temps, ça assure au moins aux chercheurs ou à la recherche clinique d'avoir leur part de recherche qui s'adressera à la population visée. Et aux États-Unis, c'est une politique, mais à Santé Canada, avant de mettre leur autorisation pour commercialiser un produit, est-ce que c'est quelque chose de sensible qui, justement, va obliger peut-être un commanditaire à faire cette recherche dans notre population?
Écoutez, je pense que la prochaine fois, vous devriez inviter quelqu'un de la direction des produits thérapeutiques. Sérieusement, je pense que ce serait une très bonne chose que vous fassiez ça. Je sais que le Canada a des ententes de réciprocité avec d'autres pays. Donc, on accepte des données qui viennent de d'autres pays. Donc, on a une certaine variété de populations. Quelle est la politique exacte en ce qui concerne cette politique pour le Canada? Je ne sais pas exactement quelle est la politique de la direction des produits thérapeutiques. Malheureusement, je ne travaille pas dans cette section-là de Santé Canada.
Merci. Mahmoud Roybien, dans l'Université Laval, le président du comité d'éthique en sciences de la santé. Ma première question s'adresse à M. Carpentier. Vous avez dans une de vos diapositives, au tout début, vous avez montré un histogramme avec l'histoire de migration des essais cliniques des pays, disons, avec une éthique beaucoup plus appropriée vers des pays où on pense que l'éthique est moins appropriée, mais les coûts sont de l'ordre de 60% moins chers que si ça se fera aux États-Unis ou au Canada. Après, avec la suite de votre conférence, vous semblez mettre tout cette migration ou manque d'essais cliniques qui se passent au Canada ou aux États-Unis sur une responsabilité plus ou moins dédiée au comité d'éthique. Alors, la première des questions que j'ai à vous, est-ce que cette migration-là, on peut réellement l'attribuer aux délais, aux exigences et aux demandes plus ou moins appropriées des comités d'éthique, ou plutôt aux réductions de coûts que les compagnies cherchent à réaliser avant de mettre sur le marché, bien sûr, leurs médicaments et de réussir à gagner un peu plus?
Je pense qu'il faut tenir compte des deux, évidemment. J'ai montré un peu la question des coûts, mais je me suis concentré sur la question des délais d'approbation des comités d'éthique. Ce qui est important pour la compagnie, c'est quand est-ce qu'ils vont commencer à recruter le premier sujet de recherche. Okay? Combien ça va prendre de temps avant qu'ils commencent avec le premier sujet de recherche? Et ça, cette partie-là, c'est tout le système d'approbation, que ce soit Santé Canada ou que ce soit le comité d'éthique de la recherche, ces deux choses-là combinées, combien ça prend de temps avant qu'on puisse recruter le premier sujet. Après, il y a aussi la question des coûts. Mais la question des coûts ne va pas jouer de la même façon pour toutes les compagnies. Okay? Il ne va pas jouer pour tous les produits. Okay? C'est clair qu'il y a encore des techniques qui se font au Canada, malgré que nos coûts soient supérieurs à l'Inde. Okay? Il y a encore des techniques qui se font aux États-Unis, malgré que les coûts soient supérieurs à l'Inde. Donc, ce n'est pas le seul facteur qui fait que c'est délocalisé. Mais c'est sûr que les compagnies qui, à un moment donné, veulent avoir beaucoup de sujets de recherche pour une certaine recherche, bien, ils savent que c'est beaucoup plus facile de recruter dans ces pays-là parce que dans beaucoup de pays, l'essai clinique, c'est le seul traitement disponible aussi. Hein? Donc, c'est assez facile de recruter. Les gens vont venir, ils vont signer n'importe quoi, puis ils vont prendre la pilule ou accepter une injection. Et il n'y a pas, en Inde, les rapports qui ont été faits au Parlement montraient qu'il n'y avait aucune supervision qualifiée des essais cliniques au pays, ni pour l'approbation, ni pour le suivi par les autorités réglementaires. Okay? Donc, c'est très facile de faire à peu près ce qu'on veut dans un pays comme ça.
Bien, ceci m'amène à ma deuxième question. Est-ce que c'est réellement éthique d'adopter ou d'approuver un médicament qui est fait ailleurs avec plus ou moins une réglementation ou un suivi réellement éthique et avoir obtenu des résultats, disons que ce médicament-là va réduire la migraine et l'amener ici au Canada et l'approuver et dire à toute la population, vous pouvez l'utiliser parce que les études cliniques ont démontré en Inde ou ailleurs que ça réduit réellement la migraine? Est-ce qu'on peut faire confiance à ça?
Mais Santé Canada n'a pas des ententes de réciprocité avec tous les pays, avec certains pays. Et l'Inde, à ce que je sache, ne fait pas partie de ces pays-là.
D'accord. Ma dernière petite question pour Mme Zimmermann. Vous disiez tout à l'heure que les comités, les CER, devraient assurer ou doivent, si je ne me souviens pas exactement du temps du verbe que vous avez utilisé, assurer un suivi sur les essais cliniques, ainsi de suite. Est-ce que c'est réellement de la responsabilité de ces CER-là de continuer à suivre la bonne évolution de ce qu'ils ont approuvé au tout début sur des instruments, des outils que le chercheur ou la compagnie leur a fournis?
Non, l'obligation du CER, c'est une obligation d'évaluation éthique continue. Je ne voulais pas dire du point de vue technique, mais point de vue, si vous avez dit que vous allez recruter des gens dans une salle où la confidentialité est assurée, est-ce que vous le faites vraiment?
Ben, moi, je vais le faire en me basant sur les outils que le chercheur va me fournir ou la compagnie qui va faire cette étude-là va le fournir. Est-ce que je dois avoir quelqu'un de mon comité qui va être toujours à côté au chercheur pour vérifier s'il fait ce qu'il a demandé, nous a indiqué ou non? Ça, c'est une autre paire de manches.
Oui. La question de l'évaluation éthique continue est très troublée parce que vraiment, je crois qu'il y a très peu, vous allez me dire si j'ai tort, mais très peu de CER font une évaluation éthique continue à part un rapport annuel, ce qui est le minime, mais d'être là, d'être dans le laboratoire ou vraiment être là à côté de chercheurs. Ils ne le font pas, ils n'ont pas les ressources, peut-être pas même les compétences de le faire, mais c'est sûr que si un participant nous vient pour dire, écoutez, je viens de participer à un essai clinique, on n'a jamais demandé mon consentement, est-ce que c'est correct? C'est sûr que, par contre, le CER va être responsable du fait qu'il a donné une approbation, mais d'abord c'est le chercheur qui est responsable, mais ensuite le CER aussi, parce qu'au moins du point de vue théorique, ils ont une responsabilité continue. On parle d'un consentement qui continue tout au long de la participation, pas seulement dès le début.
Ben c'est sûr. Moi, je pense que s'il y a demain une plainte qui arrive de la part d'un participant en indiquant au CER, c'est sûr que le CER ne va pas laisser ça une lettre morte et puis il va assurer un suivi. Ça, c'est de 1, de 2, en tout cas dans notre cas. Je sais que chaque année, il y a un renouvellement. C'est pourquoi on approuve le projet que pour une année, pour assurer ce renouvellement qui nous permet, sur la base d'un rapport, que le chercheur nous soumet pour voir s'il y a une bonne évolution ou non de suivi. L'autre dernier point, c'est que si le comité se rend compte qu'il y a réellement des choses qui peuvent être... Enfin, le protocole est difficile, ce qu'il va pouvoir faire, c'est instaurer ce qu'on appelle un comité de suivi qui peut assurer ces éléments-là. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir des choses sur lesquelles on va laisser de côté et ils sont très importants.
Non. Il y a d'autres moyens de faire un suivi approprié. Il y a aussi l'obligation d'annoncer au CER quand il y a des changements nécessaires au protocole et tout ça.
Oui, alors voilà. Merci pour les conférences. Je suis Chantal Doré, présidente du comité d'éthique du CSSIGS de Sherbrooke et professeure aussi à l'Université de Sherbrooke. Et je voulais simplement apporter un commentaire ou une observation qu'on a fait à notre comité d'éthique sur la question des délais. Pourquoi ça prend autant de temps? Et on s'est aperçu, en tout cas, nous, on s'est aperçu que souvent, c'est le retour vers le comité d'éthique par les chercheurs qui est long. Et je comprends pourquoi. Je n'ai pas du tout à comprendre pourquoi. Mais je comprends que c'est souvent, ça peut prendre parfois des semaines, parfois des mois. Et on a évalué un projet pharmaceutique il y a quelque temps, puis on ne l'a pas revu après. Là. Alors, ce délai-là, peut-être que c'est le CER qui semble l'assumer, mais je pense qu'il y a aussi du côté de la recherche où on a de la difficulté parfois à répondre à toutes les exigences, là, ou rapidement en tout cas.
Des études ont été faites là-dessus de façon empirique pour savoir où sont, quelle est la cause des délais. Et c'est certain que la cause n'est pas uniquement à cause de CER et du fait que le CER prend beaucoup de temps pour prendre la décision. Alors, je crois que c'est très facile et très populaire de blâmer les CER et tout le processus éthique pour la raison pour la non-compétitivité du Canada dans le domaine des essais cliniques, mais c'est trop facile et pas vraiment totalement vrai de blâmer le processus éthique. Et il y a des rapports qui ont été faits là-dessus. Je faisais partie d'une comité qui faisait partie de SPORE, des IRSC. C'est une nouvelle stratégie pour patient-oriented research. Et il y avait un sous-comité d'éthique qui a fait des rapports là-dessus. Et je crois qu'ils sont sur le site web. Si je peux, je vais donner la référence. Mais ça démontre vraiment qu'il y a multiples causes pour les délais et les comités d'éthique ne sont pas les seuls. Et aussi, ce n'est pas la seule raison pour le délai, comme l'a été souligné. Alors, c'est très facile de blâmer l'éthique parce que les scientifiques, peut-être, ne s'y intéressent pas autant, des fois, mais avertissement, ce n'est pas la panacée. S'il n'y avait pas d'éthique, il y aurait d'autres causes de délai.
Une des choses qu'on observe, c'est que le comité d'éthique, évidemment, c'est un comité qui se réunit en réunion plénière, où beaucoup de monde font des observations. Et à la fin, dans les recommandations aux chercheurs, comme on est consensuel, il y a les remarques d'à peu près tout le monde. Ce qui fait qu'il peut y avoir deux pages de commentaires. Et évidemment, ça demande beaucoup de temps à répondre. La question, c'est est-ce que tous ces commentaires-là sont pertinents? Est-ce qu'ils devraient se rendre aux chercheurs parce que ça pourrait causer des sauts d'humeur? Et dernièrement, on a eu une recherche qui était vraiment urgente, qui avait une haute priorité au niveau du ministère. On a fait notre évaluation. Et avant d'envoyer aux chercheurs, on a fait une deuxième évaluation, c'est-à-dire de la pertinence de tout ce qu'on demandait. Et je peux vous dire que finalement, ce qui a été envoyé aux chercheurs, c'était relativement peu. Mais au départ, il y avait beaucoup d'affaires. Donc, si on avait demandé tout ce qu'on entendait demander au départ, on aurait nous-mêmes créé un délai dans la réponse. Parce qu'effectivement, c'est aussi notre expérience que le plus long délai est créé par la réponse, plutôt ben, la réponse du chercheur plutôt que notre réponse à nous. Mais on peut être générateur de ce délai-là aussi à l'occasion, ou plus souvent qu'à l'occasion.
Merci à nos conférenciers. Alors après